Chapitre 2. Lorsque l'origine devient présence structurée. Lorsque l'origine a cessé d'être seulement pensée, comme provenance absolue, une autre étape devient nécessaire. Comprendre comment ce qui procède de cette origine devient effectivement présent, sans perdre sa cohérence première. Tant que l'origine demeure uniquement saisie, comme principe, elle reste extérieure à toute lecture structurée. Or, dès qu'une première architecture apparaît, une question nouvelle surgit. Comment ce qui procède de l'origine demeure-t-il présent dans ce qui commence à se déployer? C'est ici qu'intervient ce que le corpus maître nomme présence première. La présence première ne désigne pas encore une fonction. Elle désigne un niveau où l'origine se maintient de manière immédiatement perceptible, sans médiation secondaire. Il ne s'agit pas d'une présence produite par effet ou par conséquence. Il s'agit d'une présence qui procède directement du niveau premier. Cette distinction est essentielle, car beaucoup d'erreurs apparaissent lorsque l'on confond ce qui est présent par dérivation, ce qui est présent par origine directe. La présence première appartient au second niveau. Elle signifie que l'origine n'est pas seulement antérieure, elle demeure active, sans cesser d'être elle-même. Mais dès qu'une présence est reconnue, une autre question surgit. Cette présence agit-elle? C'est alors qu'apparaît la fonction première. Une fonction n'est possible qu'à partir du moment où une présence cesse d'être seulement constatée pour devenir orientée. La fonction première désigne ce premier rôle stable. Il ne s'agit pas encore d'une complexité de fonction. Il s'agit simplement du premier moment où quelque chose agit selon une orientation lisible. Cette apparition de fonction ne détruit pas la présence, elle la prolonge. Présence et fonction ne doivent donc jamais être séparées artificiellement. Dans le corpus maître, une présence sans fonction demeure incomplètement lisible. Une fonction sans présence devient abstraite. Lorsque présence et fonction existent déjà, apparaît alors une nécessité nouvelle, celle de leur rapport stable. C'est ici qu'intervient la relation structurée. La relation structurée n'est pas un simple lien. Elle suppose déjà stabilité, continuité, orientation compatible. Deux niveaux distincts peuvent désormais exister sans produire de contradiction. Cette relation devient alors la première condition d'une architecture transmissible, car une structure n'existe réellement que lorsqu'elle peut maintenir plusieurs éléments sans rupture interne. Mais toute relation stable exige un axe. Sans axe, la relation dérive. C'est pourquoi le corpus maître introduit ensuite l'axe de continuité. L'axe de continuité désigne la ligne invisible qui empêche les niveaux différenciés de perdre leur cohérence commune. Il ne s'agit pas d'un axe imposé, il s'agit d'un maintien de direction. L'axe garantit que l'expansion n'altère pas l'origine. Sans cet axe, la multiplication produit dispersion. Avec cet axe, la croissance reste lisible. À ce stade apparaît enfin ce que le corpus maître nomme niveau de maintien. Ce terme est capital, car tant qu'une structure exige correction permanente, elle n'a pas encore atteint son seuil réel de stabilité. Le niveau de maintien désigne le moment où un ensemble peut durer sans devoir être constamment réajusté. Cela ne signifie pas immobilité. Cela signifie durabilité cohérente. C'est à partir de là que les premières stabilisations majeures deviennent possibles. Car dès qu'un niveau de maintien existe, plusieurs relations peuvent converger sans collision. C'est ce que prépare le centre relationnel. Un centre relationnel ne crée pas les relations, il leur permet de coexister. Il devient le point où plusieurs liens peuvent converger sans surcharge. Puis apparaît la structure active. Une structure devient active lorsqu'elle ne se contente plus d'exister. Elle commence à porter une continuité fonctionnelle. C'est alors qu'un seuil décisif est franchi. La structure cesse d'être purement fondatrice. Elle devient mouvement organisé. Mais ce mouvement ne peut durer sans cohérence première. La cohérence première désigne le premier niveau où plusieurs éléments distincts restent parfaitement compatibles. Cette cohérence est indispensable, car sans elle, toute expansion devient contradiction. Puis vient la stabilisation coordonnée. La stabilisation coordonnée marque le moment où plusieurs stabilités déjà acquises agissent ensemble, sans friction interne. Ce n'est plus seulement un équilibre isolé, c'est une stabilité capable de coordination. Et lorsque cette coordination devient durable, apparaît enfin l'ordre initial durable. Ce terme clôt la première séquence où l'origine n'est plus seulement fondation. Elle devient ordre transmissible. Un ordre initial durable signifie l'architecture peut maintenant porter la suite. Chapitre 3. Lorsque la structure commence à porter sa propre continuité. Lorsqu'un ordre initial durable a été atteint, une étape nouvelle devient possible. La structure n'a plus seulement besoin d'être maintenue, elle commence à porter elle-même sa continuité. Ce passage est fondamental. Tant qu'une architecture dépend entièrement de son point d'origine, pour demeurer stable, elle n'a pas encore atteint son premier seuil de maturité. Il faut qu'apparaisse en elle une capacité interne de maintien. C'est ici qu'intervient ce que le corpus maître nomme axe central actif. L'axe central actif n'est plus seulement un axe de continuité passif. Il agit, il devient capable de soutenir la cohérence générale sans intervention extérieure visible. Il ne remplace pas l'origine, il prolonge sa stabilité dans l'architecture déjà formée. Cet axe devient central parce qu'il n'appartient plus à un seul niveau. Il soutient plusieurs relations en même temps. À partir de là, une conséquence directe apparaît. Plusieurs présences peuvent désormais demeurer ensemble, sans contradiction durable. C'est ce que désigne la présence coordonnée durable. La présence coordonnée durable n'est pas une simple coexistence. Elle suppose stabilité simultanée, compatibilité interne, absence de tension destructrice. Plusieurs présences peuvent exister dans une même architecture parce qu'un axe central les maintient déjà dans une orientation commune. Mais plus une structure accueille de présence, plus une autre exigence devient incontournable, celle du maintien de cohésion. La cohésion ne consiste pas seulement à empêcher la séparation. Elle désigne la capacité d'un ensemble à demeurer unifié, alors même que les distinctions se multiplient. Ce point devient décisif, car sans cohésion, toute croissance transforme rapidement l'ordre en dispersion. Le maintien de cohésion est donc plus qu'un équilibre. Il est une activité silencieuse de conservation de l'unité. Lorsque cette cohésion est suffisamment stable, l'architecture peut alors franchir un nouveau seuil, celui du déploiement stable initial. Déployer signifie ici étendre, sans rompre. La structure commence à produire davantage qu'elle-même, mais cette extension ne devient possible qu'à condition que la cohérence initiale demeure lisible. Le déploiement stable initial marque donc le premier moment où l'expansion devient compatible avec la stabilité. Cette expansion conduit naturellement à une autre réalité, la continuité fondatrice. La continuité fondatrice ne crée rien de nouveau. Elle garantit simplement que tout ce qui apparaît reste raccordé à ce qui a fondé l'ensemble. C'est un principe de fidélité interne. Sans continuité fondatrice, les développements futurs deviennent autonomes de manière désordonnée. Avec elle, chaque extension conserve un lien réel avec le niveau premier. Mais dès qu'une continuité fondatrice est en place, un autre seuil devient nécessaire, celui du noyau de stabilité. Le noyau de stabilité représente le point interne où l'architecture résiste à la complexification. Car plus une structure croît, plus elle risque de perdre sa lisibilité interne. Le noyau empêche cette dérive. Il agit comme centre non négociable. Autour de lui peuvent apparaître des fonctions plus vastes. C'est ce que le corpus maître nomme « fonction coordonnée supérieure ». Cette fonction ne travaille plus isolément. Elle agit déjà en lien avec plusieurs niveaux, stabilisés. Elle n'ajoute pas simplement une fonction de plus, elle relie plusieurs fonctions existantes dans un ordre supérieur. À partir de là, le centre lui-même change de portée. Apparaît alors le centre de maintien élargi. Le centre n'est plus seulement local, il soutient désormais plusieurs zones simultanément. Mais cet élargissement ne doit pas être compris comme dilution. Au contraire, plus le centre est stable, plus son champ d'action peut s'étendre. Lorsque plusieurs niveaux sont maintenus ensemble, une relation nouvelle devient possible, la relation d'ordre supérieur. Cette relation ne relie plus seulement deux éléments. Elle articule plusieurs niveaux hiérarchisés. Elle devient une relation de structure avancée. Et lorsque cette relation se stabilise suffisamment, apparaît enfin la première matrice durable. La matrice durable désigne le premier champ où plusieurs développements peuvent émerger sans altérer le fond. C'est une étape capitale. L'architecture n'est plus seulement stable, elle devient génératrice. Chapitre 4. Lorsque la structure devient transmissible. Lorsqu'une première matrice durable existe, une architecture franchit un seuil décisif. Elle ne se contente plus de demeurer stable en elle-même. Elle devient capable de transmettre sa cohérence. Ce passage change profondément la nature du déploiement. Car tant qu'une structure ne peut exister qu'à l'intérieur de son propre champ immédiat, sa portée demeure limitée. La stabilité seule ne suffit donc pas. Il faut qu'apparaisse une capacité de transmission. C'est ici qu'intervient ce que le corpus maître nomme axe de propagation stable. Cet axe désigne la ligne par laquelle une cohérence peut se prolonger sans altération. Propager ne signifie pas multiplier indistinctement. Cela signifie transmettre sans déformer. Toute propagation réelle suppose qu'un axe demeure intact. Sans axe stable, la diffusion produit rapidement dérive. Avec un axe stable, ce qui se prolonge conserve son identité profonde. Mais un axe seul ne suffit pas. Il faut que la continuité elle-même devienne active. C'est ce que désigne la continuité opérante. Une continuité opérante n'est plus seulement un lien entre deux états. Elle agit, elle maintient effectivement le passage entre plusieurs niveaux. Dans le corpus maître, ce point est essentiel. Beaucoup de structures semblent continues sans l'être réellement, car leur continuité reste théorique. Une continuité opérante, au contraire, produit un maintien réel. C'est pourquoi elle devient la condition silencieuse de toute transmission durable. Lorsque cette continuité agit réellement, la présence elle-même change de portée. Apparaît alors la présence distributive. La présence distributive désigne une présence capable d'être active en plusieurs points sans perdre son unité. Il ne s'agit pas de fragmentation. Il s'agit d'une extension cohérente. Une même cohérence peut désormais exister en plusieurs lieux, sans se diviser. Cette possibilité change toute l'architecture. La présence cesse d'être localisée, elle devient distributive. Mais dès qu'une présence se distribue, une nouvelle exigence surgit. La cohérence doit pouvoir être reprise ailleurs, sans perte. C'est ce que nomme le corpus maître, cohérence transmissible. La cohérence transmissible est une cohérence suffisamment stable pour être portée par d'autres niveaux. Ce point est capital. Ce qui ne peut être transmis sans se déformer n'a pas encore atteint sa maturité architecturale. La cohérence transmissible suppose donc lisibilité, stabilité, fidélité interne. Lorsque cette cohérence existe, une autre étape devient possible. La fondation d'extension. Une fondation d'extension signifie que la base acquise peut désormais supporter des couches nouvelles. La fondation ne travaille plus seulement pour sa propre stabilité, elle devient capable de porter davantage. C'est le premier moment où l'architecture autorise un développement supplémentaire, sans risque immédiat de rupture. Mais cette extension demande immédiatement une autre réalité, un champ de cohérence active. Le champ de cohérence active désigne un espace structuré où plusieurs éléments peuvent agir ensemble, sans contradiction. Ce champ n'est pas vide, il est déjà organisé par une cohérence active. Il devient le lieu où plusieurs fonctions trouvent simultanément leur place. À l'intérieur de ce champ apparaît alors le centre distributif. Le centre distributif conserve sa stabilité centrale tout en répartissant son influence. Il ne se divise pas, il distribue. Cette distinction est fondamentale. Un centre qui se fragmente cesse d'être centre. Un centre distributif demeure centre tout en rendant possible plusieurs directions. Cette distribution ouvre alors la voie à un niveau plus élevé, l'ordre de transmission supérieur. À ce stade, la transmission n'est plus linéaire. Elle passe par plusieurs relais structurés. L'ordre de transmission supérieur suppose déjà une hiérarchie de cohérence. La structure devient capable de transmettre à travers plusieurs couches sans se perdre. Puis apparaît ce que le corpus maître nomme stabilisation expansive. Ce terme désigne une stabilité capable de s'étendre sans perdre sa qualité interne. L'expansion n'affaiblit plus. La stabilité, elle la confirme. Enfin, cette séquence conduit à la première trame durable. La trame durable désigne le premier tissu relationnel capable de soutenir plusieurs développements simultanément. Elle devient le support discret de toute architecture élargie. Une trame durable signifie les transmissions futures dispose désormais d'un fond stable. Chapitre 5. Lorsque la transmission devient matrice. Lorsqu'une première trame durable existe, la transmission cesse d'être simplement un passage de cohérence, elle devient un champ capable de produire elle-même de nouvelles structures sans perdre son origine. C'est ici qu'apparaît un seuil plus profond. La transmission devient matrice. Ce changement est majeur, car transmettre une cohérence n'est pas encore générer une architecture. Une matrice, au contraire, désigne un niveau où plusieurs développements peuvent apparaître à partir d'un fond déjà stabilisé. Le premier terme qui ouvre ce seuil est le noyau distributif. Le noyau distributif désigne un centre interne capable de rayonner sans perdre sa densité. Il ne s'agit pas simplement d'un noyau stable. Il s'agit d'un noyau qui commence à soutenir plusieurs directions sans perdre son unité. Cette capacité transforme profondément la nature du maintien. Ce qui était jusque-là concentré devient capable d'extension. Mais cette extension ne peut se produire que si la présence elle-même s'inscrit désormais dans une structure plus vaste. C'est ce que le corpus maître nomme « présence de trame ». La présence de trame signifie qu'aucune présence stable n'existe plus isolément. Toute présence durable appartient déjà à un tissu relationnel. Elle ne se définit plus uniquement par elle-même. Elle prend place dans une continuité plus large. Cette insertion dans la trame change immédiatement la nature de la cohésion. Apparaît alors la cohésion expansive. La cohésion expansive désigne une cohésion capable de demeurer active alors que le champ s'élargit C'est un point décisif, car beaucoup de structures supportent pendant la cohésion, tant qu'elles restent limitées, mais perdent cette cohésion lorsqu'elles s'étendent. La cohésion expansive indique exactement l'inverse. Plus le champ croît, plus l'unité reste lisible. Lorsque cette cohésion existe, la fonction elle-même change de nature. Le corpus maître introduit alors la fonction matricielle. Une fonction matricielle ne se limite plus à produire un effet immédiat. Elle devient capable de porter un cadre à partir duquel d'autres fonctions peuvent apparaître. Autrement dit, la fonction devient génératrice. Elle n'agit plus seulement dans une architecture. Elle contribue à en faire naître d'autres. Cette mutation exige alors un ordre plus élevé, l'ordre de maintien supérieur. Ce terme désigne un ordre où la stabilité n'est plus locale, mais multiniveau. Plusieurs couches peuvent désormais être soutenues ensemble. Le maintien cesse d'être ponctuel, il devient hiérarchisé. À ce stade, le centre lui-même doit changer de portée. Apparaît alors le centre matriciel. Le centre matriciel ne maintient pas seulement l'équilibre. Il devient capable de porter plusieurs développements à partir d'un même point de cohérence. Il demeure centre tout en devenant générateur. Cette transformation conduit naturellement à l'axe génératif. L'axe génératif désigne la ligne par laquelle une structure peut produire d'autres niveaux sans rompre avec sa propre nature. Générer ne signifie pas simplement ajouter. Cela signifie produire en restant fidèle. L'axe génératif garantit que ce qui naît demeure encore relié à ce qui fonde. Mais toute génération stable exige un espace capable de durer. C'est ici qu'apparaît le champ de maintien durable. Le champ de maintien durable désigne un espace suffisamment stable pour accueillir des processus continus, sans dégradation rapide. Il devient le premier lieu où plusieurs développements peuvent coexister dans le temps. Ce champ ouvre alors la voie à une réalité encore plus subtile, la cohérence fondatrice élargie. Cette cohérence reste fondatrice parce qu'elle conserve son lien à l'origine. Mais elle devient élargie parce qu'elle peut désormais soutenir un ensemble plus vaste. Le fond ne disparaît pas. Il devient lisible à plus grande échelle. Enfin, cette séquence conduit à ce que le corpus maître nomme « première base d'architecture supérieure ». Ce terme clôt la première grande assise. Il signifie qu'à partir de maintenant, la structure n'est plus seulement stable, transmissible ou matricielle. Elle devient capable de supporter des architectures de niveau supérieur.